Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les pertinentes, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, sur le Kinshasa.
Crédit bancaire, quels sont les avantages et les risques? On assiste depuis quelque temps au développement du secteur bancaire en République démocratique du Congo. Ces institutions financières offrent divers services aux clients, notamment les crédits bancaires qui intéressent souvent les hommes d'affaires ainsi que certains salariés. Pour diverses raisons, certains clients ne sont pas en mesure de rembourser à l'échéance fixée. Alors, quels sont les avantages et les risques de contracter un crédit bancaire? Jean-Claude Tétic, encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Vous êtes le directeur général du fonds de promotion de microfinance. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par crédit bancaire?
Bien, alors non, je pense d'abord que c'est une question très très importante et je vous encourage à pouvoir éventuellement traiter de cette question.
Mm-hmm.
Vous savez, dans une société, juste pour expliquer ça de manière très simple, vous avez des gens qui sont en excès de financement, qui ont des ressources financières et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire de cela.
Mmh.
De l'autre côté, vous avez des gens qui sont de porteurs de projets, mais qui ne savent pas où trouver l'argent pour financer cela.
Voilà.
Éventuellement, si toi et moi nous sommes dans cette situation, tu ne me prêterais pas cet argent parce que simplement vous ne me connaissez pas. Mais la seule situation et la seule institution qui peut mettre ensemble ceux qui ont besoin de financement et ceux qui en ont, c'est la banque. Et donc la banque permet de faire, et c'est pour qu'on parle de l'intermédiation financière, la banque essaie de mettre les deux pour pouvoir permettre à celui qui a besoin de se faire financer pour financer un projet, de pouvoir trouver des ressources nécessaires et de pouvoir fructifier. Alors le crédit, effectivement, c'est des ressources qu'on obtient auprès d'une banque, qui sont des ressources à rembourser, et
à
une assurance donnée, avec un taux d'intérêt, parce que c'est quand même de l'argent que vous utilisez, de l'argent d'autrui, et que vous devez payer un intérêt. Donc voilà, il y a trois caractéristiques, c'est qu'il y a un montant qui vient permis de déterminer, avec un but du crédit, vous avez la maturité, éventuellement, dans combien de temps vous repayez ce crédit, et vous avez aussi le taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix qui rémunère ce service que la banque vous a offert.
Alors, disons, qui peuvent aller auprès d'une banque pour solliciter un crédit?
Bien, alors, je suis déjà le directeur du fonds de promotion de la microfinance, alors vous parlez simplement des banques, je parle aussi des institutions de microfinance qui offrent aussi,
bien sûr,
les crédits. Qui sont les gens qui doivent aller
qui sont habilités?
Alors, c'est tout le monde, par définition.
Ok.
Par définition, c'est tout le monde. Mais après, les banques ont quand même une restitution. Oui, tout le monde, mais ceux qui ont une capacité de pouvoir repayer. Et donc, ce sont des gens qui ont une activité génératrice de revenus. Ça peut être quelqu'un qui a une entreprise ou simplement un travailleur qui a un salaire. Donc, vous devez à la base avoir un revenu pour aller demander un crédit. Donc, ça, c'est la condition, la première condition. Parce que, en fait, quand vous allez le rembourser, vous le remboursez aussi avec un intérêt. Donc, il va de soi que vous devez avoir une source de revenus stable pour pouvoir avoir accès au crédit.
Voilà. Donc, il faut avoir une source de revenus stable pour avoir accès au crédit. Alors, parlez-nous à présent des avantages d'un crédit.
Bien. Alors, comme j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure, dans une économie, vous savez, on ne peut pas imaginer la croissance dans un pays sans le crédit. Toutes les grandes sociétés que vous connaissez aujourd'hui, qui ont connu un développement fulgurant que tout le monde apprécie aujourd'hui, a été essentiellement dû par l'octroi de crédit. Parce que, effectivement, vous avez des gens qui réfléchissent, qui ont des projets, qui veulent investir, mais qui n'ont pas d'argent. Et je pense que la pensée humaine a amené sur la Terre quelque chose de très génial qu'on appelle la banque, et qui a permis de pouvoir collecter de l'argent à ceux-là qui n'en ont pas besoin, qui ne savent pas l'utiliser de manière urgente, et le déférer de l'autre côté à des gens qui ont deux projets. Et donc, le crédit a une importance capitale, parce que le crédit permet éventuellement de faire des financements, des investissements, et vous savez que les investissements ont pour objectif claire, son finalité est de pouvoir accroître, impulser un peu la croissance économique.
Mm-hmm.
La croissance économique, par définition, finit par une redistribution de revenus et donc par la réduction de la pauvreté.
Donc l'avantage, voilà, c'est de financer des projets.
De financer des projets, mm-hmm, et d'avoir une incidence sur la vie des gens.
Voilà. Mm-hmm. Il y a certains salariés aussi qui vont chercher des crédits, non pas pour, peut-être pas pour des projets d'investissement, mais pour peut-être un projet, construire une maison, acheter un terrain ou autre chose. Est-ce que c'est là...
Effectivement, c'est la même
comporte chose. Comporte des risques,
enfin. Oui, ça comporte des risques. Éventuellement, ça comporte des risques, mais ça comporte aussi des avantages. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de risques, mais il faut aussi parler des avantages. Écoutez, je suis un travailleur, je gagne 2000 dollars. Si vous me demandez aujourd'hui de m'acheter une voiture de 30 000 dollars, je ne peux pas. Mais par contre, je suis capable de pouvoir débourser 500 dollars de mon salaire pour pouvoir payer cette voiture. Voilà. C'est-à-dire, le crédit me permet éventuellement d'étaler mes dépenses au lieu de le faire d'un seul coup,
mm-hmm,
et de pouvoir accéder à un bien que je n'aurais jamais pu accéder si je devais l'acheter cash. Et donc ça, c'est du crédit à la consommation, éventuellement, même, mm-hmm, pour le crédit à la consommation, ça a de la valeur. Pourquoi? Parce que ça augmente quand même un standard de vie. Avoir une voiture, avoir une télé.
Ça augmente votre pouvoir d'achat.
Non, pas toujours. Ça augmente pas les
fameux. Pendant un certain temps, quand vous avez l'argent. Hein.
Oui, non, ça n'augmente pas votre pouvoir d'achat. Par contre, vous avez un pouvoir d'achat et ça permet de vous rendre, de vous faciliter la vie.
Mmh.
Éventuellement, vous avez maintenant un véhicule qui vous permet de venir plus rapidement au boulot et donc ça augmente votre productivité. D'une certaine manière, les crédits à la consommation peuvent paraître une destruction de revenus de la part de celui qui prend ce crédit. Mais il faut aussi voir quels sont les effets qu'on ne peut pas peut-être évaluer quantitativement, mais qui sont quand même des effets assez...
Alors, Jean-Claude, vous parlez de crédit à la consommation. Ça m'amène à vous poser la question de savoir quels sont les différents types de crédits qui existent.
Alors, la liste, elle est assez longue.
Elle est exhaustive.
Vous avez plusieurs typologies en termes de crédits. Si on prend... vous avez des crédits. Alors, là, simplement, pour ne pas entrer dans des crédits syndiqués, dans des crédits, voilà, il y en a plein.
Il y en a plein.
Je parlerai plutôt des crédits qui sont récurrents sur le marché congolais. Vous avez des crédits, des caisses. C'est-à-dire que ce sont des crédits où la banque vous accorde certaines facilités. Parce que vous êtes une entreprise, votre cash flow peut se retrouver dans une situation où la réglementation entre vos entrées et vos sorties ne sont pas...
C'est quoi le cash flow?
Excusez-moi, j'ai oublié même que j'étais dans une émission beaucoup plus publique.
Ah,
non,
voilà.
Ça veut dire que vous pouvez être dans une situation telle que vos entrées...
Mm-hmm.
Le temps que vous avez vos entrées et les sorties ne correspondent pas.
Mmh.
Vous avez donné du crédit aux gens, ok,
mmh,
vous attendez qu'ils vous repayent, mais en même temps, quelqu'un vous amène une facture à payer. En ce moment-là, comme il y a un décalage entre les entrées et les sorties,
mmh,
et donc vous pouvez aller vous retourner à votre banque et vous dire, écoutez, disponibilisez-moi une ligne de crédit ou un découvert bancaire pour lesquels je peux puiser à chaque fois qu'ils ont besoin de pouvoir de faire face à ces
transactions. Oui, voilà.
Donc ce sont des crédits, des découverts et tout ça. Vous avez aussi des crédits qu'on appelle décaissables. Décaissables, pourquoi? À terme, c'est des crédits que vous prenez, que vous remboursez à une certaine durée, suivant des conditions. Ce sont des crédits qui sont commerciaux. Pourquoi commerciaux? Parce qu'ils sont utilisés pour, effectivement, financer une activité qui est productive, productrice. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des crédits que vous recevez juste pour la consommation. Vous ne l'utilisez pas pour fructifier un business, vous l'utilisez parce que vous voulez vous acheter une voiture, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, ou acheter une maison. Voilà. Enfin, après...
La consommation.
Oui, c'est de la consommation.
Alors parmi ces trois types de crédits, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de risques?
Les risques, clairement, le plus de risques qu'il y a au niveau du crédit à la consommation.
Pourquoi?
Vous vous en doutez, parce que le crédit à la consommation, c'est un salarié qui le prend, qui l'utilise pour consommer. La voiture que vous achetez ou la télé que vous achetez ne vous produit rien. Okay.
Mmh.
Et donc, éventuellement, vous devez vous rassurer que vous avez toujours le salaire pour pouvoir payer ce crédit. Et généralement, aujourd'hui, lorsque vous regardez sur le plan international, lorsqu'on parle de surendettement, vous vous rendez compte qu'éventuellement le surendettement est de plus en plus surtout au niveau des
clients. Les gens ont de plus en plus de besoins.
Ils veulent avoir beaucoup de choses, ils veulent avoir des belles maisons parfois, et c'est là qu'il y a le problème maintenant. Les gens, normalement aujourd'hui, vous savez, c'est un peu le style de notre société. Les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens, ils veulent se taper des grandes voitures, des belles maisons, parfois qui dépassent leurs moyens, et les banquiers parfois ne regardent pas trop souvent aujourd'hui les capacités de remboursement de la personne.
Ils donnent
comme ça. Vous êtes tout à fait au courant de ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes aux États-Unis.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est que c'était une situation très simple. C'est que les banquiers donnaient du crédit, finalement, ils se sont retrouvés, il n'y avait plus de clients. Là, ils ont réfléchi de manière assez...
Pourquoi les clients ne voulaient plus
simplement parce que le marché de l'immobilier était devenu saturé. Ceux qui avaient la capacité de pouvoir avoir le crédit n'ont eu. Mais il y a une grande partie de la population qui n'avait pas ces crédits, qui était simplement pauvre ou qui n'avait pas de revenus pour pouvoir avoir ces crédits. Et donc, dans une gestion orthodoxe de la banque, éventuellement, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un qui n'a pas assez de moyens le crédit. Mais ils ont forcé la barre. Ils se sont dit, oui, nous devons quand même leur donner du crédit.
Et les gens ont pris.
Comment ils ont fait? Alors, mais c'était assez particulier parce que c'est vraiment de l'arnaque qu'il faut soulever ici.
Ils ont dit,
bien sûr, vous n'avez pas de l'argent à payer aujourd'hui, mais nous estimons que l'immobilier va pouvoir croître dans le futur. Ils ont fait le pari d'une évolution de l'équité qui est un pari assez risqué, que l'immobilier va croître. Et dans tous les cas, même si vous ne serez pas en possibilité de pouvoir repayer cette maison, lorsque l'immobilier croîtra, la plus-value va vous revenir et donc vous payerez. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accordé de petits paiements au début, et après une année, le paiement a commencé à grossir. Et éventuellement, les gens se sont retrouvés dans une situation telle que leur revenu étant resté fixe, ils ne pouvaient pas suivre la marche. Et donc voilà, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient plus payer.
On va y revenir tout à l'heure, le temps d'accueillir les auditeurs. Vous savez, Jean-Claude, vous êtes suivi de partout à travers le pays. Ramazani nous appelle de Bounia dans la province orientale. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-63-94.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Recours au crédit bancaire, quels sont les avantages et les risques? Ramazani nous appelle de Bounia, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à les auditeurs, ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi.
Bien, Ramazani, quelle est votre question?
Pas d'une question telle, mais j'aimerais contribuer à l'émission. Aussi, en concernant juste le sujet-là, l'octroi de crédit par les différents banques de microfinance ici. Et vous savez, je dis aujourd'hui, avec la situation conjoncture que connaît notre pays, aujourd'hui, c'est peut-être difficile de trouver les banques ici n'inspire pas confiance aux opérateurs économiques. Ou surtout, les opérateurs économiques, ces sollicitations faire du crédit auprès d'eux. Pourquoi, après autre, d'abord, la personne qui vient solliciter le crédit n'a pas de quoi un capital fixe. Si pas un capital dans les deux sens du terme, mais c'est plutôt quelque part donc, une représentation quelconque financière qui peut rembourser toutes sortes combler le vide là à cas de perte ou de déficit connu par les sollicitants. Vous voyez quelque part quand sur la carte de ne pas signer en plus confiance aux gens. Je vais vous notifier ça par un exemple que nous avons connu à Pune ici, avec une banque là de microfinance. À l'époque, quand les gens auraient reçu un grand nombre de montants à cette banque, subitement comme ça, la banque a pu décevoir beaucoup d'opérateurs économiques à Pune aussi. C'est pour ça que vous pensez que vous voyez aujourd'hui, c'est une compétition. Je sais, il peut d'orienter.
Oui, ça est vrai, Ramazani.
Vous voyez aujourd'hui que avec tout ce comportement-là que nos banques affichent vis-à-vis des opérateurs économiques, les gens n'aspirent plus confiance à la banque. Et à la banque aussi, c'est vice-versa. Vous voyez, c'est juste des services pareils.
Oui, merci. Merci, Ramadan. Oui. Merci pour cette contribution à Ramadani. Mukendi nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Bonjour, Mukendi.
Bonjour, c'est le Mukendi à Kananga.
Mukendi, on vous écoute. Hein.
Oui, je voudrais demander une possibilité d'avoir bon salut. Je me suis engagé à toutes les banques, m'a donné des moyens, pour m'en faire des statistiques. Maintenant, je suis décédé. Les banques sont tout à fait compliquées.
Mukendi, il y a un problème au niveau de la communication, on n'arrive pas à vous entendre correctement. Oui, peut-être essayer de vous déplacer un tout petit peu, ça peut peut-être améliorer la qualité de la liaison pour la communication.
C'est ça.
Oui.
C'est
oui.
Allô.
Oui, on vous écoute, allez-y.
Oui, je peux demander le statut, j'ai déjà avec les banques, je m'en donne le statut. Maintenant, je peux faire le statut de ces deux.
Désolé, Mukendi, on n'arrive pas à saisir votre question. On va vous retrouver plus tard. Alors, vous avez suivi la question de le premier intervenant qui se plaint. Il dit qu'il y a un problème de confiance entre les banques et les microcrédits, microfinance et Abunia et les opérateurs économiques.
Oui, je pense que la remarque de M. Ramazan est tout à fait fondée. Vous savez, les relations entre les banquiers et les clients est fondée essentiellement par la confiance. Vous savez, même le crédit. Le mot vient de la confiance. Je t'accorde du crédit, je t'accorde de la confiance. Mmh. Et donc, le mot, la confiance est même l'essence même, le soubassement même de cette relation-là. Mmh. Et éventuellement, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que la plupart des institutions ou toutes les institutions financières sont réglementées par la Banque centrale. Les autres entreprises...
Pourquoi pour éviter les dérapages?
Mais bien sûr, parce que, regardez, Vodafone n'est pas réglementé par la Banque Centrale, Celtel ou c'est pas moi, c'est... Les autres types d'entreprises ne sont pas réglementées par une Banque Centrale. Il n'y a que les banques et les institutions financières. On a déjà posé la question, c'est simple, parce qu'aujourd'hui, 80% des ressources que ces banques, ces institutions utilisent, c'est de l'épargne des gens. Et donc, ils gèrent une grande partie, ils ont que 10% de leurs propres fonds propres. Donc, ça veut dire que
c'est très dangereux.
Et donc, on doit gérer ces institutions avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce qu'une défaillance d'une institution peut créer ce qu'on appelle une crise systémique de tous les systèmes bancaires du pays, et ça peut vraiment poser des problèmes. Et donc, la confiance est essentielle.
Nous avons d'autres questions des auditeurs. Quel est l'impact que peut avoir un crédit obtenu par les gangs pétillants?
Oui, Hélène Petit, alors donc vous voulez dire simplement des gens qui ont revenu bas. Mmh. Non, mais je pense qu'un crédit très bien pris dans des bonnes conditions a un impact assez solide. Je vais vous donner des chiffres aujourd'hui, vous savez.
Ça peut les Pas toujours.
Les gens ont une vision très... Sinon la microfinance n'existerait pas, sinon on n'aurait jamais pu faire de succès. Non, simplement...
À un moment, il y a des gens qui se sont vus à un moment, la banque a tout saisi, hein, la maison, on a tout
pris, leur bien. Alors il y a deux choses. Vous trouvez, on ne peut pas en défendre de mauvaises banques ou de mauvaises institutions. Vous avez effectivement des gens qui ont de mauvaises pratiques, qui donnent du crédit à des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas le rembourser. En ce moment-là, éventuellement, ça va très mal tourner parce que les clients ne pourront pas tout rembourser et éventuellement, la banque va venir pouvoir réaliser les garanties, donc saisir tout ce qui est au client.
Et certains clients aussi ont aussi des mauvaises pratiques.
Voilà, il y a des clients qui ont. Alors, dans le remboursement des crédits, vous avez deux situations. Vous avez la situation où les clients ont un problème des capacités de repayement. Ça veut dire qu'il y a une situation telle que ces entrées n'ont pas été suivies correctement telles que prévues. Ça, c'est une situation normale. Les banquiers sont compréhensibles par rapport à cela. Et vous avez aussi des situations où il y a la volonté. Et quand il y a un problème de volonté, c'est un problème. Et la plupart des crédits aussi est dû au problème de la volonté. Quelqu'un ne veut pas simplement payer.
Et donc, mauvaise foi.
C'est pas mauvaise foi, oui. Mais les crédits restent très bénéfiques pour le revenu.
Alors, à ce moment-là, si vous ne payez pas dans l'échéance convenue, il y aura des pénalités qui vont.
Éventuellement, à la base d'un crédit, il y a un contrat. Les contrats stipulent clairement qu'ils stipulent tout ce qui peut arriver lorsqu'il y a un temps d'impayement. Et donc, on peut réaliser les garanties, c'est-à-dire que si vous avez donné les garanties, on peut le retirer. On peut vous forcer à pouvoir rembourser les crédits, éventuellement, c'est dans le contrat, la loi le reconnaît. Et donc, voilà, ce sont des situations qui peuvent tourner très mal, mais il faut toujours les éviter. Et des deux côtés, les clients doivent l'éviter et le banquier doit aussi.
Les banquiers aussi.
Voilà.
Arsène nous appelle de Bukavu, dans la province de Sikivu. Bonjour Arsène.
Ok, bonjour. Je serai un peu bref et je demande à l'invité parce que je viens de
et de les trouver une forme de catégorisation, soit de l'emploi, de crédit, bon. Et de les trouver, si on veut acheter une voiture, on n'a pas les moyens de rembourser la voiture, si tu prends $30, on peut le retirer 5 000, ou bien 5 ans par mois, soit c'est par mes services, les demandes, tu vois. Il y a des moments où je vais même, j'ai demandé le crédit bon, dans un coffret que je ne peux pas trouver le nom. Bon. Et j'avais le même projet d'acheter cette fois-ci. On m'avait montré aussi, on demande d'acheter le produit, mais la voiture, ce n'est pas un bon projet. Il fallait mettre des projets pour faire l'agricole, bon, pour payer une parcelle, pour payer soit une maison, mais une voiture, on peut le mettre dans la route et ça va écraser. L'argent de rembourser, ça n'est pas encore le souci, donc ce n'est pas un bon projet. Et vraiment, est-ce que vraiment tout ça aussi est fort ça? Et ce que je demande aussi à notre invité encore, c'est concernant la catégorisation de nos prospects aujourd'hui. Souvent, nous voyons le milieu Rio, il n'y a pas de prospects, ça va dans la ville, mais dans les villages. C'est impossible, c'est un paysan à aucun droit aussi de demander l'emprunt, c'est comme la préoccupation.
Merci Arsène. Jean-Claude. Arsène, je pense que ça, ce sont des très très bonnes questions. Premièrement, éventuellement, vous savez, c'est pas les catégories des prêts ou des crédits que je vais décider, c'est pas toutes les institutions qui les offrent. C'est-à-dire, chaque institution peut se décider de dire, écoute, moi je ne donne que du crédit commercial. Une autre peut se décider juste à donner du crédit commercial. Donc, si vous êtes allé dans une institution qui vous a dit que non, je ne finance pas les voitures, c'est une orientation stratégique de leur part. Mais vous pouvez trouver aussi d'autres qui financent les voitures, il n'y a pas de souci. Alors, la question du rural, éventuellement, oui, effectivement, ça, c'est le constat réel. Le secteur financier est établi dans les milieux urbains et périurbains. Mmh. Ils ne financent pas le rural.
Et là, dans le rural, il y a des coopératives.
Hein. Non, il y en a de très peu. Je dis qu'il y a très peu.
Très peu aujourd'hui. Oui.
Aujourd'hui, c'est moins de 2% à 1% du portefeuille des institutions de microfinance qui financent les secteurs agricoles, par exemple. Et donc, éventuellement, c'est un problème. Nous travaillons, nous, comme au niveau du Fonds de promotion des microfinances, de pouvoir inciter les institutions à aller dans le rural. Quand même, un pays à 80% rural, donc il y a de quoi à ce qu'on puisse augmenter les apports dans ce domaine-là.
Bien. Une autre question, y a-t-il un danger de contracter des crédits dans plusieurs banques?
Non, la
réponse... Vous allez ici, vous prenez du
voilà, ici à gauche, non, dans 3, 4, 5. Non, mais la réponse, elle est oui, sans hésiter. Non, non, ce qu'on appelle en jargon technique des crédits croisés. Et je vais vous dire, il y a des pays où les systèmes de crédit s'est effondré complètement parce que les clients avaient l'habitude d'aller multiplier. Et quand vous voyez un client multiplier les banques, ça veut dire qu'il a déjà dépassé sa capacité de repayement et il commence à mentir de
oui.
Et donc, si vous avez une situation comme ça qui se généralise, c'est tout le système qui peut s'écrouler. C'est pourquoi on encourage aujourd'hui, la Banque Centrale est en train de mettre un bureau de surveillance pour être sûr que chaque personne qui a un crédit est connue de toutes les autres banques. Mmh. Ainsi, on va éviter un peu le système de crédit croisé qui est très très nuisible.
Très nuisible. Mmh. Le taux d'amortissement des crédits le plus avantageux, c'est lequel?
L'amortissement, vous voulez dire le taux d'intérêt?
Oui, taux d'intérêt, bien sûr.
Le plus en termes de chiffres.
Oui, en termes de chiffres.
Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend d'une banque allemande. Ça dépend d'une banque allemande. Ça dépend de quel projet on finance. Les crédits à la consommation généralement coûtent plus cher que les crédits de la promotion. Les crédits de gros montants coûteraient moins cher qu'un petit crédit. Voilà. Donc ça dépend de quel type de crédit, de quelle nature.
Il n'y a pas de taux standard. Pour toutes les banques.
Non, il n'y a pas de taux standard. La banque centrale a laissé la liberté à chaque banque de pouvoir fixer son taux d'intérêt.
Christian nous appelle depuis Bukama dans la province du Katanga. Bonjour Christian.
Oh, bonjour Roger, c'est Christian, animateur à la radio communautaire Monaco Bukama.
Bien, Christian, on vous écoute à ton frère.
Ok, merci. J'avais une préoccupation à poser à notre invité. En fait, concernant les conseils qu'il avait donné pour les gens qui sont habilités en fait à prendre un crédit à la banque, parce qu'il avait dit tout à l'heure, ce sont des gens qui ont des revenus. En fait, Par exemple, moi, j'ai un boulot, j'ai un salaire, alors que les délais m'est donné par la banque, aussi à mon compte, il n'y a rien. Qu'est-ce que la loi peut prévoir, ça, que les comptes de la banque, ils peuvent me dire, je crois, oui, c'était ça la préoccupation du coup de camp.
Merci, Christian. Jean-Claude.
Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question.
Il a contracté un crédit, mais il se retrouve à un moment, il n'est plus en mesure de payer.
Oui, éventuellement. Alors, il y a eu un problème au niveau soit du calcul. Généralement, qu'est-ce que fait la banque? La banque prend votre salaire, il ne peut vous prêter que un montant qui va vous permettre de pouvoir repayer les crédits à la hauteur de 30% de vos revenus. Donc, dans tous les cas, si ce principe-là est appliqué, vous ne pouvez pas vous trouver dans une situation de paiement, sauf si vous perdez votre travail. Donc, normal, sauf si la banque a trompé ou il a mis un paiement qui est plus supérieur et que par rapport à vos revenus, vous ne savez plus faire face à cela. Mais dans le principe, vous ne pouvez pas payer plus de 30% sur vos revenus. Parce qu'en fin de compte, après le crédit, vous devez nourrir votre famille,
vous devez vivre.
Voilà, vous devez vivre. Donc, je pense qu'il y avait un problème au niveau du montage du dossier de crédit.
Jean-Claude Tessica, merci. On s'arrête là pour aujourd'hui.
Merci à vous.
Vous retrouverez prochainement.
Merci.
Nous rappelons que vous êtes le directeur général du fonds des promotions des microfinances.
Merci à vous.
Au café. Thank you.